Néo Planète 21. Soyons positifs, défendons notre planète.
Il est 16h08 sur Néoplanète, la radio COP21. Nous sommes en direct avec trois chefs, trois pros de la cuisine. Nous allons parler d'un sujet alors là, qui intéresse beaucoup de nos internautes, c'est la cuisine, l'alimentation. Comme dit Yann Arthus-Bertrand, la solution est dans l'assiette. Ben justement, on va en parler. Donc, en plateau, Philippe Comte, qui a créé la boucherie végétarienne dont on vous parle très souvent sur Néoplanète, qui est Place d'Aligre. Bonjour Philippe. Olivier Picard, qui a créé Terra Culinaria, qui est un cuisinier professionnel qui a commencé chez Alain Passard, excusez du peu, et qui est passionné par les plantes sauvages. Et puis Guillaume Sanchez, bonjour Guillaume, qui est chef du Nomos à Paris dans le 18e et qui est membre de l'Air Durable. Alors ce que je vous propose, c'est déjà un petit peu de vous présenter chacun pour expliquer, parce que vous êtes chacun des gens engagés dans votre domaine et qui est un domaine qui se complète, mais ce n'est pas exactement toujours la même chose. Donc Philippe Comte, on démarre avec la boucherie végétarienne qui est un concept très nouveau. Hein. Vous avez ouvert ça il y a quelques mois.
En effet, bonjour Yolaine et merci de soutenir notre initiative par votre invitation à cette antenne. En effet, oui, la boucherie végétarienne, c'est la première boucherie en France qui commercialise de la viande sans viande, du poulet sans chair de poule, du bœuf effet bœuf, mais sans bœuf, et on peut dire aussi du porc qui n'est ni du lard ni du cochon. Le principe, c'est qu'on s'aperçoit que chaque année, sur la planète Terre, il y a plus de 58 milliards de poulets élevés et abattus, souvent dans des conditions indignes d'ailleurs, 1,3 milliard de porcs, 300 millions de bovins, et tout cela pour nourrir ces animaux, il faut des surfaces agricoles qui sont de plus en plus importantes et qui sont gagnées par la déforestation de la forêt primaire, comme en Amazonie brésilienne ou en Indonésie.
Alors c'est le fameux zoocide de Mathieu Ricard. Donc la seule chose qu'on pourrait peut-être, qui parfois est un peu étrange dans votre concept, enfin bon, on m'a déjà souvent dit ça, c'est pourquoi ils disent boucherie végétarienne. Est-ce qu'on a du mal à assumer d'être végétarien? Est-ce qu'il faut quand même mettre le mot boucherie ou c'est juste un joke ou c'est de la provocation? Pourquoi vous avez fait cet oxymore finalement?
Tout à fait, c'est un viandoxymore. Nous voulons sortir le végétarisme de ce qui a pu être peut-être une forme de ghetto. C'est-à-dire, nous voulons prouver qu'il est possible à tout un chacun, même aux gens qui sont très attachés au goût de la viande, à la consistance de la viande, à l'aspect même de la viande, de pouvoir consommer autre chose tout en gardant leurs habitudes alimentaires. Et on s'adresse aux végétariens, on s'adresse aussi aux flexitariens, c'est-à-dire les gens qui veulent continuer de manger de la viande, mais de moins en moins.
Et qui veulent quand même, comme un petit steak ou comme une petite saucisse, mais c'est du végétal. Olivier Picard, Terra Culinaria aussi, c'est amusant, vous dites que c'est de la gastronomie végétale. Là aussi, c'est un concept un peu nouveau, en tout cas en France. C'est quoi la gastronomie végétale?
Alors bonjour, merci bonjour. Pour votre invitation. Donc la gastronomie végétale, en fait, c'est à la fois les savoir-faire de chef. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai créé Terra Culinaria, c'est un atelier pour apprendre à cuisiner. Et pour moi, pour apprendre à cuisiner, il faut apprendre les bases. C'est-à-dire même au quotidien, quand on cuisine au quotidien, si on veut cuisiner de manière rapide, astucieuse, il faut connaître les bases de la cuisine. Moi, je parle de solfège de la cuisine. Voilà, comme
c'est joli.
Quand on veut jouer d'un instrument de musique, il faut aussi maîtriser les bases. Donc, quand je parle de gastronomie, c'est ces techniques-là qu'il faut apprendre. Et il y a la notion de terroir. Je parle de terroir végétal, c'est-à-dire que c'est à la fois apprendre les techniques et à la fois découvrir ou redécouvrir les produits de notre terroir. Je parle de terroir végétal, parce qu'il y a une grande partie de notre terroir qui est un peu ignorée. Moi, je parle du coup des légumineuses, des algues. Les algues, on a des algues incroyables qu'on va trouver spécifiquement en France, qu'on ne va pas trouver par exemple au Japon, qu'il faut apprendre à découvrir et cuisiner. Les plantes sauvages, bien sûr, ça fait vraiment partie de notre terroir. Et en plus, ces aliments sont très nutritifs, très savoureux. Donc voilà, Terra Culinaria, c'est transmettre des techniques et ouvrir les yeux sur une partie de notre terroir qu'on a tendance un peu à oublier, à ignorer.
Ça ne doit pas être toujours facile de convaincre les gens, parce que la plante sauvage en France a encore un peu une connotation de sorcière, de trucs un peu bizarres, de plantes, on dit souvent les mauvaises herbes. Enfin, elles n'ont pas la cote, malheureusement, ces plantes sauvages. Vous sentez une réticence ou ça bouge un peu de ce côté-là?
En fait, voilà, la démarche, c'est vraiment de montrer les choses, de faire goûter les choses. Il y a quelques mois, j'étais chez une maraîchère. Et en plein milieu de son potager, elle avait une plante sauvage qu'on appelle mauvaise herbe, hein, que les maraîchers qui ne connaissent pas cette plante vont arracher. Cette plante sauvage s'appelle le kénopode blanc. C'est une plante sauvage qui est cousine de l'épinard, mais qui est plus savoureuse et qui va mieux tenir la cuisson. Et qui est très, très nutritive. Donc, une fois que je lui ai montré cette plante, qu'elle l'a goûtée, elle a dit « mais c'est génial !» Et du coup, Marie s'est mise à proposer ces plantes dans ses paniers qu'elle distribuait aux particuliers. En plus, c'est gratuit. Donc, au lieu de les arracher, les mettre dans son compost, elle en fait profiter tout le monde.
Et elle a un succès fou grâce à vous.
Voilà, en plus, c'est original. C'est des nouvelles formes, des nouvelles saveurs. Donc, c'est super.
Alors, vous êtes un petit peu dans la même démarche que Guillaume Sanchez, qui est donc chef au Nomos à Paris dans le 18e, et qui est membre de l'Air Durable. Qu'est-ce que c'est que l'Air Durable? R, c'est avec un grand R, hein. C'est quoi?
L'Air Durable, en fait, c'est juste un mouvement de chef qui cherche à faire bouger les consciences, qui cherche à montrer qu'on peut faire de la grande gastronomie en restant locavore, en restant les hommes, en fait, c'est-à-dire sans tomber dans les extrêmes. Comme le végétarisme, juste en contrôlant le produit, en allant le chercher là où il est, voilà, en faisant en fonction du produit qui est déjà existant. On est dans un format où on ne réclame rien aux producteurs, c'est les producteurs qui nous proposent. C'est, en fait, ça change tout.
Et ce que vous dites aussi, c'est que vous voulez remettre au goût du jour, des savoirs anciens, des techniques anciennes. Ça fait partie aussi de votre démarche, ce que disait Olivier Picard, ouais. C'est-à-dire nous refaire découvrir tous ces trésors extraordinaires qu'on a complètement oubliés avec l'industrialisation.
Alors, en fait, moi, pour la petite histoire, j'ai travaillé longtemps dans le nord du monde. Nord de la France, jamais. Par contre, Finlande, Danemark, Suède,
ah oui, c'est
ça, je connais très très bien. Et du coup, en fait, on a dû trouver des solutions pour contrer les saisons. Le problème dans ces pays-là, c'est qu'il y a de la neige, tout le temps. Et qu'une carotte, pour la faire pousser, c'est impossible. Par contre, on a créé des systèmes de fermentation, on a créé des systèmes de conservation qui apportent un goût. Premièrement, au produit, et qui, deuxièmement, nous permettent de sortir des carottes constamment. Voilà. Ça ne fait pas pour autant de nous des gens qui comprennent pas les saisons. Et les saisons, justement, au contraire, on les comprend mieux que quiconque, étant donné qu'on est capable de les contrer.
Donc, tous les trois, vous défendez la cuisine des légumes. Alors, souvent, ce qu'on entend comme critique, c'est qu'en fait, les légumes, c'est très difficile à cuisiner. Il n'y a rien de plus simple de prendre un steak, on ouvre le paquet, on le jette dans une poêle, et puis après... Alors que les légumes, il faut les éplucher, chacun a un peu... Qu'est-ce que vous répondez à ça? Est-ce que c'est vraiment difficile, ou est-ce que c'est les consommateurs qui ont perdu l'habitude, finalement, et qui, du coup, bloquent un peu par ignorance? Qui est-ce qui se jette? Allez,
moi, je vais vous jeter.
Guillaume Sanchez, allez-y.
En fait, je considère que les légumes, il n'y a rien de plus simple. Il faut juste laisser part belle à l'émotion. C'est uniquement ça. Je ne pense pas qu'il y ait réellement de technique. Je pense juste qu'il y a un sentiment de bien faire dans la poêle. Il y a un moment donné où tu te rends compte que le légume est comme tu le veux. Voilà. En fait, c'est ça le secret.
Mais ça, c'est un artiste qui parle. Hein. Moi, je parle de la...
C'est pas une question, non ?
Madame Michu qui est là tous les soirs. Les gens normaux qui ne sont pas des artistes comme vous,
Madame Michu, en fait, se fera autant plaisir à cuisiner de beaux produits. Par exemple, une carotte, elle n'a pas forcément besoin de l'éplucher. Voilà. Juste avec un bon beurre dans la poêle et c'est parti, quoi.
Oui, mais alors à ça, on va vous dire qu'elle ne va pas l'éplucher s'il est bio, parce que sinon, on vous explique qu'il y a tellement de choses horribles dans votre carotte que les gens sont traumatisés, et du coup...
Non, mais effectivement, il faut partir sur des beaux produits.
D'accord.
Il ne faut pas acheter ça n'importe où, et effectivement, vous parliez de steak qu'on retire d'un emballage, ça me fait un peu, ça me fait un peu frissonner, moi.
Ben oui, mais vous faites pas de cuisine végétarienne, on est d'accord?
Absolument pas.
Oui, vous faites un peu de tout, d'accord. Olivier Picard, vous qui êtes un pro du légume, qu'est-ce que vous en diriez là-dessus? Sur la difficulté, la méconnaissance et la difficulté à cuisiner. Et puis,
alors,
on donnera son avis aussi.
Donc moi, je transmets des cours techniques, en fait. Donc il y a plusieurs formules dans mon atelier, mais j'accentue beaucoup sur l'aspect technique. Et notamment, il y a des cours de taillage qui ont beaucoup de succès, parce que les participants se rendent compte qu'une fois qu'on apprend à émincer, à utiliser un éminceur, on a un plaisir, en fait. C'est-à-dire que c'est comme apprendre à... Un art martial, au début, c'est difficile d'apprendre des gestes, etc. De la même façon que c'est difficile de tenir un couteau, de bien découper. Mais avec quelques heures d'entraînement, c'est pour ça qu'ils viennent à mes cours, pour qu'ils s'entraînent et que je sois derrière eux à corriger le geste. Après, ils ont un plaisir énorme. Voilà, c'est comme un beau geste qu'on répète et qu'on a du plaisir à faire au quotidien. Et grâce à ce geste-là, on peut voir vraiment toute la diversité de façon de cuisiner le légume. Et j'associe beaucoup la découpe à la cuisson. C'est-à-dire une façon de découper un légume, ça va déterminer la cuisson. Plus un légume est coupé finement, plus il va cuire rapidement. Donc c'est super. Si on arrive à découper rapidement un légume et à le découper finement, on va pouvoir derrière le cuire très rapidement. Et donc du coup, si on est pressé, c'est formidable de pouvoir maîtriser ce genre de technique-là.
Surtout que maintenant, il y a des robots pour les gens pressés. Parce que souvent, quand on vous entend, les gens se disent « Oui, mais moi, je n'ai pas le temps de tailler mes légumes le soir. » Il y a des robots. On commence à être aidé quand même. La technologie arrive un peu.
C'est vrai. Mais moi, le plaisir du geste de la main, c'est formidable.
Oui, mais vous êtes des artistes, voilà. Je dis. Vous êtes...
Et quand on a la technique, on peut vraiment découper rapidement. Vraiment. Ouais. Et ça ne prend pas beaucoup de temps d'apprendre.
D'accord.
Moi, je vois les étudiants qui viennent à mon cours, au bout de 2 heures, je vois, ils commencent à avoir le geste. Ils maîtrisent, ils savent émincer. Et c'est un plaisir énorme de les voir progresser rapidement et de voir après que derrière, chez eux, ils font des jolies choses, ils vont tailler des juliennes rapidement. Et voilà, c'est un plaisir.
Ça donne envie, hein, ça donne envie d'aller apprendre à tailler les légumes avec vous. Philippe Comte, alors c'est un petit peu particulier parce que vos légumes et vos végétaux, vous les taillez finalement, vous les sculptez en forme de saucisse, c'est un peu ça, non?
En effet, nos produits sont prêts à être cuits directement, donc ça ne va pas être la même démarche qu'Olivier. Ce sont des produits qui sont prêts à être jetés dans la poêle et directement préparés ainsi. Ce qui n'empêche pas, et là bien entendu il faut se rejoindre, une cuisine autour de ces produits. Je crois qu'il y a quand même aujourd'hui un retour et un retour gagnant du plaisir de cuisiner. On voit de nombreuses émissions à la télévision de cuisine, on voit des chaînes de boutiques avec justement les robots les plus perfectionnés ou les ustensiles de cuisine les plus adaptés. C'est donc qu'il y a de plus en plus de gens intéressés pour pouvoir trouver du plaisir à cuisiner. Alors, bien entendu, parfois, c'est plutôt un manque de temps. Il y a des journées comme aujourd'hui pour vous, je crois, Yolaine, où le temps n'est pas là. Alors, donc, il faut
parfois...
Je ne vais pas
vous faire un gratin ce soir, hein, je suis désolé. Hein.
Il faut parfois avoir une solution rapide. Eh bien, les produits de la boucherie végétarienne peuvent apporter cette solution rapide aussi s'il le faut.
Alors, si ce n'est qu'il y a quelque chose d'étrange dans votre boucherie végétarienne, c'est que vos produits sont surgelés, c'est ça?
Oui.
Pourquoi? Parce que c'est trop compliqué de les avoir en frais?
Non, c'est le process de fabrication. Pour pouvoir avoir la consistance de la viande, les produits sont surcongelés à moins 30 degrés et compressés dans des formes de presse hydraulique pour pouvoir réussir à transformer cette pâte végétale en quelque chose qui est la consistance de la viande, ce qui fait que le palais s'y trompe et on a l'impression de manger de la viande. Donc comme cela a été surgelé pour la fabrication, et comme il est impossible de recongeler un produit déjà surgelé, nous préférons le garder en surgelé jusqu'à l'assiette du consommateur.
D'accord. On a l'impression que le milieu de la cuisine est particulièrement dynamique, je trouve, et ouvert à toutes les valeurs du développement durable, plus que d'autres milieux qui ont un peu tendance à se crisper. Donc bravo, c'est bien. Mais est-ce que vous pensez que le consommateur est prêt à ça? Est-ce que vous avez l'impression que, parce que surtout en France, donc, le sujet de l'alimentation est extrêmement tabou. On a des idées très, très précises, on est le pays de la gastronomie, du coup on a des idées un peu comme ça toutes faites. Est-ce que vous sentez, tous les trois, une évolution dans la demande du consommateur, une remise en question? Est-ce que vous trois, qui êtes des gens complètement à la modernité dans l'avenir, vous sentez qu'il y a du répondant derrière ou c'est pas encore facile, le message passe pas bien? Qui se lance? Guillaume Sanchez, non? Non, ça vous inspire pas comme question?
Si, ça m'inspire. En fait, je considère que la France n'est plus le pays de la gastronomie.
Ah bon? Attendez, vous allez nous faire pleurer là.
Non, c'est vrai en fait.
Mais
c'est
quel
vrai,
est le pays de la gastronomie alors?
Aujourd'hui, on a l'Espagne qui se défend plutôt très bien. On a le Danemark qui se défend mieux que quiconque. On a l'Amérique du Nord qui commence à bien se chauffer aussi. Et la France a à peu près 20 ans de retard sur ce qui se passe dans le monde.
Terrible.
C'est une claque, plutôt terrible. C'est plutôt terrible. C'est un cas sociologique et économique. Hein. Dans les années 80, tout le monde a perdu le goût de la cuisine, et ça se ressent aujourd'hui, tout simplement.
Ça vient, vous croyez, du consommateur, justement, par facilité pour aller plus vite, ou c'est parce que le milieu, peut-être, n'a pas saisi, c'est un peu dormi sur ses lauriers aussi, parce que
les Français... C'est effectivement un tout. C'est une France qui a été persuadée pendant des années d'être la meilleure et qui, du coup, n'avait pas forcément besoin de se renouveler et de retrouver un sens à sa gastronomie. C'est le consommateur qui effectivement, est tombé dans un système de surconsommation. Qui prenait plus le temps d'aller au supermarché que dans une boucherie ou chez un maraîcher. C'est vraiment un tout.
Mais là, vous parlez en plus de la gastronomie, la haute gastronomie, les grands restaurants, ou vous parlez vraiment de la cuisine, je dirais
un peu... Non, je parle que des restaurants respectables.
D'accord, vous ne parlez pas de la cuisine de tous les jours.
Non, en fait, la cuisine d'un grand restaurant, c'est la cuisine de tous les jours, mais juste avec des produits merveilleux, c'est tout. Je considère que ce qui se fait dans un palace peut très bien se faire chez soi. Voilà, c'est il y a pas beaucoup plus de technique, il y a pas beaucoup plus de recherche. Ils utilisent des carottes, ils utilisent des tomates, ils utilisent de la mozzarella, de la viande. Voilà, donc en fait ça c'est possible chez soi.
Mais il y a l'émotion dont vous parliez tout à l'heure. Non, c'est ça qui fait la différence.
Il faut juste retrouver l'envie et savoir sourcer ses produits, tout simplement.
Olivier Picard, vous avez la même analyse sur la France et les Français face à la gastronomie, à la cuisine?
Alors, je peux parler des gens que je rencontre. Je rencontre beaucoup de gens à travers mes activités. Voilà, je touche des particuliers qui ont envie de découvrir autre chose, d'apprendre à cuisiner. Et je vois beaucoup d'omnivores qui se posent des questions, qui se rendent compte que manger de la viande au quotidien, ce n'est pas forcément l'idéal pour la santé, ce n'est pas forcément l'idéal pour la planète. D'autres personnes se posent des questions au niveau éthique, du respect du bien-être animal. Et donc, ils viennent me voir et voilà, ont envie d'apprendre à cuisiner autrement. Et vraiment, je rencontre de plus en plus de personnes qui se posent ce genre de questions. Alors, peut-être que je suis dans un milieu qui fait
forcément
que ces gens-là viennent à ma rencontre et que les autres personnes qui n'ont pas cette démarche-là, cette sensibilité-là, ne vont pas aller à mon contact. Donc, c'est peut-être le biais que je peux avoir, mais c'est ce que j'observe.
Je suppose que pour Philippe Comte, c'est la même chose. Les gens qui vont à la boucherie végétarienne, a priori, vu le nom, ce n'est pas des gens qui adorent la viande, forcément.
Eh bien, nous avons de tout. Nous avons, par exemple, des seniors qui aimaient la viande, mais qui ne peuvent plus en manger pour des raisons de cholestérol, et qui donc choisissent nos produits pour cela. Nous avons des gens qui viennent à la boucherie végétarienne pour des raisons religieuses, que ce soit le bouddhisme, l'hindouisme, parfois de ne pas manger telle ou telle viande. Et par contre, là où on voit que ça bouge le plus, c'est par rapport à la commande publique. Et justement, avec l'élan de la COP21, là, par exemple, nous avons eu la caisse des écoles du 13e arrondissement qui nous passe des commandes pour les cantines scolaires.
Ah oui, ça, c'est
donc
très nouveau.
Donc là, en effet, on voit que les choses bougent et elles bougent pour les générations montantes.
Alors, très rapidement, chacun d'entre vous, en conclusion, qu'est-ce que vous attendez de cette COP21? Philippe Comte, vous avez la parole, gardez-la.
Eh bien, c'est une initiative très importante que de pouvoir réunir l'ensemble des décideurs politiques et économiques à Paris, en France, malgré les événements. Et espérons que des décisions vont en sortir. Il faudra par contre, bien entendu, faire le suivi de ces décisions, parce que parfois l'effet d'annonce ne suffit pas. Mais...